Le journal Stéphanie Wenker.
Bonsoir. Aider les pommiers des vergers neuchâtelois à affronter le réchauffement climatique, c'est une des missions que se pose la Fondation Rétropomme. Au moment de la récolte, il n'y a pas de miracle, l'été caniculaire a laissé des traces. Des factures de gaz vitéo se font réagir dans le canton de Neuchâtel. Certaines étaient particulièrement élevées au dernier semestre. Le fournisseur énergétique assure que les coûts vont s'équilibrer sur une année. En Espagne, le procès concernant une des catastrophes ferroviaires les plus importantes du pays vient de s'ouvrir. Il doit durer 4 mois et concerne un train qui avait déraillé en 2013 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le temps ensoleillé d'aujourd'hui va se retrouver demain dans la région. Les traditionnels brouillards des premières heures du jour sur le littoral restent présents. Les fruits souffrent du réchauffement climatique. Après un été exceptionnellement chaud, les récoltes neuchâteloises ont dû faire face à beaucoup de stress hydrique. Au verger de Pierrabeau, sur les hauts de la ville de Neuchâtel, on a constaté des récoltes bien en dessous des normes en ce début d'automne. Rétropomme, une structure qui vise à la sauvegarde du patrimoine fruitier de Suisse romande, souhaite mettre en place une aide pour les vergers neuchâtelois afin de les aider à affronter le réchauffement climatique. Boris Bachofen, directeur de la fondation, explique les stratégies qui pourront être mises en place.
Il faut aussi trouver les plants qui sont adaptés et qui sont aussi quand même résistants au gel, hein, parce qu'on a des étés très chauds, mais on va quand même maintenir des hivers avec des problèmes de gel. Et du coup, c'est difficile d'anticiper ce qu'on va planter. Mais ce qu'on peut imaginer pour retenir l'eau du sol, c'est augmenter peut-être la teneur en matière organique dans les sols. Et ça passe par des principes culturaux qui vont devoir favoriser justement cette matière organique. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudra regarder, tout en regardant effectivement aussi des espèces qui soient plus résistantes. Mais comme je l'ai dit, c'est du travail à long terme.
Un sujet réalisé par Jean Friedrich. Et puis demain, dans la matinale, nous recevrons le président de la Fondation Rétropomme, Philippe Kupfer, pour une dégustation de pommes de notre région. Fermeture du tunnel de Serrières pendant près de 24 heures. Dès demain soir 20h et jusqu'à vendredi 18h, il ne sera plus possible de circuler sur l'autoroute entre les jonctions Neuchâtel-Ouest et Neuchâtel-Serrières. Des travaux sont prévus par l'Office fédéral des routes en direction de Bienne. Le trafic sera dévié par la route cantonale. Dans un communiqué, l'Ofrou explique que la couche de roulement doit être refaite. 6 accidents se sont déjà produits dans ce secteur depuis le début de l'année. Une vitesse excessive lors de conditions météorologiques défavorables en était la cause principale. Des factures vitéos provoquent la crispation dans le canton de Neuchâtel. Le journal Le Temps a mis le doigt la semaine dernière sur des bordereaux de gaz particulièrement salés. Selon le quotidien roman, c'est la méthode de calcul employée par le fournisseur énergétique neuchâtelois qui suscite des questions. Vitéos se base sur une consommation journalière moyenne, sans tenir compte du fait que l'on brûle plus de gaz pendant la saison froide. Alors lorsque les prix du gaz ont pris l'ascenseur ce printemps en raison de la guerre en Ukraine, les sommes facturées ont flambé. Mais sur 12 mois, la situation va se rééquilibrer et les clients du fournisseur neuchâtelois ne seront pas défavorisés, promet la secrétaire générale de Vitéos, Claire-Lise Clément.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode du pro rata temporis, donc la consommation en fonction des jours, elle a toujours été appliquée par Vitéos. Elle n'est donc pas nouvelle. En outre, elle est aussi pratiquée dans la branche. Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Il y a la méthode du degré jour, il y a la méthode du prorata temporis, il y a aussi celle qui tient compte de l'élément thermique, eau chaude, chaleur. Il n'y a pas une seule méthode. La plus exacte, c'est le relevé mensuel, ce qui n'est actuellement techniquement pas possible en fait, dans la branche.
Les clients peuvent envoyer leur relevé de compteur pour que leur facture soit au plus proche de leur consommation réelle. Ça veut dire qu'ils doivent être proactifs.
Oui, alors tout à fait, on a toujours fait d'accepter à l'initiative de nos clients qui nous envoient en fait des photos de leur compteur mensuellement. Dans ce cas-là, on adapte la facture en conséquence.
Des propos recueillis par Aude Raymondi. Un coup de neuf pour le château d'Yverdon. La première étape a été entamée en 2021 avec des travaux sur la tour des Juifs. La prochaine phase s'attaquera à la tour de la ville avant de poursuivre avec la tour des gardes en 2024. La façade orientale et le donjon devraient conclure cette grande opération de réfection entre 2025 et 2026. Le château d'Yverdon a été construit en 1259 par des seigneurs savoyards. Vincent Fontana, directeur du musée d'Yverdon et région, nous en dévoile quelques caractéristiques.
Il y a une particularité notoire, c'est que d'abord c'est un château massif de forteresse de plaine, qu'il est construit en pierre de taille essentiellement mollasse, et puis il a subi l'objet de grosses interventions par les Bernois à partir de 1710-1715, notamment pour la tour de la place en l'occurrence, et la tour des Juifs. Mais la tour de la place a été en partie reconstruite dans une autre pierre, qui est le tuf, qui est beaucoup plus solide. Donc la tour qui va être restaurée l'année prochaine, si tout va bien, si on obtient les crédits municipaux, eh bien elle a la particularité d'être en deux pierres différentes, donc elle travaille aussi différemment par rapport au mouvement du sol. Les fentes sont très particulières à cause justement de cette double structure. Voilà un peu la particularité du château.
On disait de ce château qu'il avait tendance à se tasser. Pourquoi ?
Il a eu tendance à se tasser. On est dans un environnement qui est un ancien marais, qui a été asséché depuis des siècles. Toujours est-il que le sol a été très longtemps poreux, mobile, meuble. Et donc, pendant un moment, en tout cas jusque dans les années 50, le château s'enfonçait. Et il y a eu des grosses interventions d'ingénierie et de restructuration du bâtiment. Maintenant, on est en sécurité, le château ne bouge plus du tout.
Un sujet signé David Sanchez. La phase suivante des travaux de restauration devrait débuter l'année prochaine. Son coût de plus d'1 million de francs sera assumé équitablement entre la ville d'Yverdon et l'association de restauration du château d'Yverdon. Le législatif de la Neuville se réunit ce soir. Les énergies renouvelables, le recyclage ou encore la stratégie énergétique seront discutées lors de cette séance du Conseil général. Les précisions de Séverine Boé.
La municipalité de la Neuville va passer aux énergies renouvelables. En réponse à la motion « Encourager l'installation de toute production d'énergie renouvelable sur les biens fonciers », les autorités rappellent que des panneaux solaires vont être installés cette année encore sur le toit du site du camping de la plage. Le conseil municipal précise encore que tous les bâtiments appartenant à la commune en seront aussi équipés, hormis ceux de la vieille ville. Un projet qui est prévu au plan d'investissement 2023-2025. Les autorités neuvilloises ont également indiqué qu'elles augmenteront le prix d'achat de l'énergie renouvelable de 60%. Sont particuliers et que la commune propose un prix stable sur une année civile.
Et le conseil municipal va également présenter un rapport en lien avec un postulat sur le recyclage du plastique. On retrouve Séverine Boé.
Dans un postulat, Céline Canel du Parti Forum demandait au conseil municipal d'étudier les possibilités de valoriser les déchets plastiques. Elle prenait notamment en exemple le projet pilote mis en place par les villes de Bienne et Nidau qui propose une fois par mois le ramassage du plastique dans des sacs payants afin qu'il soit recyclé. Dans son rapport, l'exécutif indique avoir lancé l'étude d'un plan de gestion des déchets dans lequel la récupération des plastiques sera prise en compte. L'étude devrait être terminée dans le courant de l'année prochaine. En parallèle, le conseil municipal explique suivre de près la convention qu'a signée Swiss Recycling avec les principaux acteurs du marché alimentaire pour la mise en place d'une filière de recyclage.
La séance du Conseil général de la Neuville se tient donc ce soir dès 19h30 au Centre des Épancheurs. Une avancée dans la lutte contre l'endométriose. Des chercheurs de l'hôpital de Lille à Berne travaillent sur un test rapide et non invasif qui utiliserait le sang menstruel. Actuellement, seule une laparoscopie sous anesthésie générale permet de diagnostiquer cette maladie de manière sûre. L'endométriose touche environ 10% des femmes en âge de procréer. Son origine reste mal comprise. Elle provoque des douleurs souvent invalidantes et des problèmes d'infertilité. À l'étranger, la Russie annonce s'être appropriée la centrale nucléaire de Zaporijjia. Vladimir Poutine a signé un décret en ce sens aujourd'hui, 7 mois après le début de l'occupation militaire russe. Cette centrale est la plus grande d'Europe. Elle est située dans la région de Zaporijjia, l'un des territoires ukrainiens annexés la semaine dernière par la Russie. C'est l'émotion en Espagne. Le procès de la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle s'est ouvert aujourd'hui. Plus de 600 témoins et experts vont se succéder à la barre jusqu'au 10 février prochain. L'accident s'était produit le 24 juillet 2013. Un train arrivant de Madrid avait déraillé avant de s'encastrer dans un mur faisant 80 morts et 140 blessés. Il s'agit du drame du rail le plus meurtrier dans le pays depuis 1944. Raphaël Chalvera.
Les débats devant la justice espagnole sont attendus avec impatience par les familles des victimes qui réclament la vérité sur les circonstances et les responsabilités de cette catastrophe survenue il y a 9 ans. Ce soir d'été 2013, le train a abordé un virage très serré à 179 km/h alors que la vitesse était limitée à 80. 2 minutes avant le déraillement, le conducteur a été distrait par une conversation téléphonique avec le contrôleur du convoi. Il doit aujourd'hui répondre d'homicide résultant d'une grave négligence professionnelle. Le chauffeur s'était rendu compte trop tardivement que le freinage devait être déclenché. L'ancien responsable de la sécurité du réseau ferroviaire espagnol est aussi mis en cause pour ne pas avoir réalisé d'études de risque sur le fameux virage. Les magistrats ont requis 4 ans de prison contre les deux hommes. Le conducteur avait exprimé sa douleur 1 an après le drame. Il a demandé pardon à travers une lettre et s'est dit anéanti par les conséquences de l'accident.
Le montant des dommages et intérêts pour les familles des victimes s'élève à plus de 56 millions de francs. Il fera l'objet de débats spécifiques après le procès pénal.
Il est 18h10.
Sport.
Colombier Volley a les dents longues pour cette nouvelle saison de Ligue B masculine. Le club neuchâtelois a entamé son championnat le 24 septembre. Pour l'heure, le bilan est positif, 2 victoires et 1 défaite. Cette saison, le club peut compter sur 3 retours de choix pour compléter un effectif qui a de l'allure. Marc Briquet, Damien Rossignol et surtout l'ancien capitaine de l'équipe de Suisse, Joël Bruchweiler. Avec l'arrivée de ces éléments expérimentés, les ambitions sont à la hausse. Le podium, voire même le titre, mais imaginer plus est irréalisable pour l'instant. Thomas Gutnecht, président de Colombier Volley.
Viser le titre, on y pense, aller plus haut. Non, on n'y pense pas pour le moment. Passer de Ligue B à la Liga, c'est quand même encore un cran supplémentaire. On a des déficits d'infrastructures dans les salles de sport, dans la région. Donc on ne pourra plus jouer à Colombier si on va en Liga. Je crois que les salles sont déjà très très pleines à Neuchâtel. Enfin, c'est une autre organisation, c'est une autre structure pour le club et c'est des autres infrastructures aussi sportives. Donc pour l'instant, dans la montée en Ligue 1, on n'y pense pas, mais le titre en Ligue B, pourquoi pas.
Et le prochain match de Colombier Volley, c'est ce samedi à domicile contre Amrisville à 18h du côté de la salle des Mûriers. L'Espagne et le Portugal intègrent l'Ukraine à leur candidature commune pour l'organisation du Mondial 2030 de football. Les présidents des 3 fédérations l'ont annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'UEFA à Nyon. Le projet a pour but de lancer un message de solidarité et d'espoir selon la fédération espagnole dans un communiqué. Red Bull et son écurie sœur AlphaTauri vont renforcer leur partenariat en Formule 1 avec la marque japonaise Honda. Celle-ci verra le retour de son logo sur les monoplaces des 2 équipes dès ce week-end au Japon. Honda avait officiellement quitté la F1 en fin de saison dernière. Un nouvel accord a été signé. Il court jusqu'à la fin de la saison 2025 afin de continuer à fournir une assistance technique dans le développement des moteurs Red Bull et AlphaTauri. Prochain point sur l'actualité à 18h30. Belle suite de soirée.